dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition du vendredi 9 février 2024. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington, D.C., la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de la crise aux frontières entre les États-Unis et le Mexique. 2,5 millions de personnes ont traversé cette frontière en 2023, selon la police aux frontières américaine. Une augmentation de 234% par rapport à l'année 2021. La gestion des frontières est donc plus que jamais un sujet politique qui suscite des divergences entre démocrates et républicains. Une affaire qui devrait figurer parmi les principaux thèmes de campagne aux États-Unis en cette année électorale. Et pour en parler, nous aurons trois invités. René Lec est analyste politique. Bonsoir René Lec. Nous avons aussi Dr. Carole Grasse-Barga, elle est ambassadrice mondiale de la paix des Nations Unies. Bonsoir Carole Grasse-Barga.
Bonsoir.
À New York, nous allons retrouver Bakary Tandia, il est défenseur des droits des immigrants. Bonsoir Bakary Tandia.
Bonsoir.
Très bien, merci beaucoup d'être là. Alors nous retrouvons nos invités dans quelques instants pour commencer les échanges. Vous écoutez dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de la crise aux frontières entre les États-Unis et le Mexique. Et pour commencer, nous donnons la parole à René Lec, qui est analyste politique. Alors René, 302 000 migrants ont été arrêtés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique en décembre 2023. 2,5 millions de personnes ont traversé cette frontière en 2023, selon la police aux frontières américaines. C'est une augmentation de 234% par rapport à 2021. Comment expliquer, René, cette vague migratoire à cette frontière?
Ah, écoutez, Mohamedou, c'est une combinaison de facteurs. La situation sécuritaire dans toute la région des pays au sud des États-Unis, en Amérique centrale et dans certains pays d'Amérique latine, donc qui fait qu'il y a beaucoup de populations de ces pays qui trouvent le besoin de venir sous la protection, j'ai presque envie de dire, en tout cas de venir en sécurité aux États-Unis. Deuxièmement, il y a beaucoup plus de familles. Pendant longtemps, l'immigration, c'était des jeunes, elle était plutôt individuelle. Et là, on est passé à un niveau où, justement, pour ces raisons de sécurité, c'est vraiment des familles entières qui se déplacent. La question de la crise climatique, qui rend la situation extrêmement difficile, la vie très difficile pour certaines populations dans cette zone-là. Et puis, Mohamedou, la raison principale, à mon avis, principale peut-être pas, mais en tout cas l'une des raisons principales, c'est avec la fin de la pandémie du Covid, il y a une sorte de rattrapage qui se fait, notamment également la fin un peu de l'article du Title 42, le titre 42 qui avait des dispositions beaucoup plus drastiques sur les possibilités d'entrée. Donc il y a une combinaison de tous ces facteurs-là qui font que la pression à la frontière a été beaucoup plus importante l'année dernière.
Alors, Carole Grasse-Barga, René Lec vient de le dire, c'était d'abord une affaire individuelle, maintenant ce sont les familles entières qui choisissent de traverser cette frontière. On a des Mexicains, des Salvadoriens, beaucoup de Sud-Américains, mais on a aussi beaucoup d'Africains qui traversent cette frontière. Selon la police des frontières américaines, on a eu 58 000 traversées d'Africains en 2023. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant d'Africains qui se retrouvent à cette frontière qui est à plus de 10 000 kilomètres du continent africain?
Donc, moi, je pense que l'explication, ce serait juste ce qu'on appelle la recherche de l'American Dream. Ça veut dire le rêve américain. Tout le monde voudrait sortir de la pauvreté. Moi, je suis, par exemple, originaire du Cameroun. Nous voyons, par exemple, ce qui se passe dans notre terre natale, où il y a des coupures excessives d'électricité. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi, malgré qu'ils soient diplômés. Nous avons des coupures excessives d'eau. Donc, cela peut pousser tout un chacun à vouloir une vie meilleure hors des frontières camerounaises. Et c'est pas juste des Camerounais qu'on retrouve à cette frontière. Nous avons des Congolais, nous voyons ce qui se passe présentement dans la crise au Congo, dans le Kivu. Nous avons des Tchadiens, nous avons des personnes qui sortent un tout petit peu partout d'Afrique, juste à la recherche, si je peux dire, d'une vie meilleure. Et les États-Unis, jusqu'à preuve du contraire, restent une terre promise pour beaucoup de familles, pour beaucoup de populations.
Bakary Tandja, vous êtes à New York, vous connaissez très bien cette question, puisque vous êtes défenseur des droits des immigrants. Et à New York, justement, on a vu ces dernières semaines des dizaines de migrants dans les rues qui ne savaient pas où dormir. Et selon les médias, les services sociaux sont pratiquement débordés là-bas. Est-ce que ce n'est pas la preuve que cette crise migratoire est en train de devenir intenable? Comment jugez-vous cette situation? Et quelle est d'ailleurs la situation à New York où vous vous trouvez?
Merci, Mahamadou. Je salue mes collègues qui ont accepté de venir partager leur opinion sur cette question si importante, comme vous l'avez si bien dit. Quand on prend l'exemple de New York, la situation est débordante parce que New York est une ville qu'on considère comme une ville sanctuaire qui est très, très accueillante par rapport aux immigrants. Donc, ce qui fait qu'il y a une grande affluence au niveau de New York. À toute chose, il y a des limites. Malgré, en tout cas, la volonté de la ville de New York d'accueillir toutes ces personnes qui sont dans le besoin, la ville ou l'État de New York ont ses limites. Par exemple, quand on considère la ville de New York City, par exemple, elle va connaître un déficit budgétaire de 12 milliards de dollars à cause de cette situation imprévue. Donc, c'est une situation très grave. Bon, je dirais que c'est une crise humanitaire majeur, comme les précédents intervenants ont eu à le dire, il y a une réaction naturelle de chercher mieux, une réaction naturelle de se protéger. Donc, il y a ce qu'on appelle les pull factors et push factors. À cela, il faut ajouter aussi les nouvelles technologies, les communications en fait de masse. Lorsqu'il y a une opportunité quelque part, le monde entier est au courant. C'est tout à fait naturel que les gens affluent vers les États-Unis parce qu'en termes d'opportunités, aucun pays n'est comparable aux États-Unis. Donc les gens viennent ici parce qu'ils font face aux violations des droits de l'homme dans leur pays où les conditions économiques et sociales sont terribles. Si je prends le cas de mon pays qui est à la tête de la liste de l'article que New York Times a publié récemment, plus de 15 000 jeunes sont venus de la Mauritanie. C'est du jamais vu, c'est impensable, c'est incroyable. C'est à cause de la situation des droits de l'homme en Mauritanie. La discrimination raciale qui continue, l'esclavage, donc sous toutes ses formes. Donc, par rapport aux États-Unis, les gens viennent, certains viennent chercher de la protection parce qu'ils sont persécutés dans leur pays. Dans d'autres cas, les conditions sociales, économiques sont intenables, les opportunités n'existent pas. Quelquefois, quand les gens s'interrogent, comment se fait-il que les gens se lancent dans le désert, dans la mer, pour aller trouver mieux, ils ont besoin de se mettre dans la situation de ces personnes-là. Parce que l'existence n'a pas de sens lorsqu'on n'a pas d'espoir. Quand on est dans une situation de désespoir total, lorsque une lueur d'espoir se pointe quelque part, quels que soient les risques qui y sont associés, la personne va tenter. Parce que la vie n'a pas de sens si on n'a pas d'espoir.
Alors, retrouvons René Lec, analyste politique. Alors, René, c'est vrai qu'il y a une vague migratoire. qui pose évidemment des problèmes d'ordre économique et sécuritaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'exagération? Est-ce que les médias et surtout les hommes politiques ne grossissent pas un peu cette crise pour des raisons électoralistes?
Oui, il y a de cela, mais bon, il est incontestable que quand même l'année 2003 était une année où il y a eu une vague record d'émigrés. Ça, je pense que c'est pas discutable. Mais il est sûr qu'il y a une dimension politique, même par rapport au cas de New York dont vous parliez tout à l'heure. L'une des raisons pour laquelle la ville de New York se retrouve dans cette situation, c'est que certains États du Sud, notamment du Texas, ont développé des charters routiers pour amener des sans-papiers, des nouveaux immigrants dans la ville de New York sous prétexte que le poids de l'immigration aux États-Unis doit être supporté par d'autres États, et c'est une manière très politique, très politicienne, très inhumaine, disent certains, pour le gouverneur républicain de Texas de punir quelque part l'État démocrate de New York. Donc c'est sûr que la politique est très présente dans la réalité, dans ce qui se passe sur le terrain. Mais au fond, le point de fond, c'est que c'est la question législative. Cette question de l'immigration ne peut pas se régler en dehors de l'espace législatif. Et toutes les administrations qui sont passées les unes après les autres, depuis 1996, pratiquement, il n'y a pas eu de réforme substantive de politique d'immigration aux États-Unis. Parce que ni les républicains, ni les démocrates n'arrivent à trouver de points communs, à trouver un consensus pour résoudre cela. Et c'est essentiellement pour des raisons politiques, en effet, moi-même.
Des raisons politiques, donc. Carole Grasse-Mbarga, justement, les conservateurs républicains accusent l'administration Biden d'être à l'origine de cette crise. Ils ont même tenté d'inculper le ministre de Joe Biden, chargé de l'immigration, Alejandro Mayorkas. Quelle est la responsabilité, selon vous, de l'administration Biden dans cette crise?
En tant que démocrate, hein, je vais tout simplement défendre mon parti. Le problème d'immigration n'est pas seulement un problème politique, c'est aussi, comme on dit, une crise humanitaire. Nous avons par exemple à Washington D.C. le maire, Mayor Bowser, elle est démocrate, mais savez-vous que par exemple à Washington, nous avons dépensé près de 36,4 millions de dollars juste pour aider les immigrants, les familles immigrantes qui sont arrivées ici. Ça nous fait des déficits au niveau de l'économie de DC, par exemple. Ça fait des déficits au niveau même des budgets. Par exemple, les familles qui entrent aux États-Unis avec des enfants, nous savons que la loi ici aux États-Unis dit que l'enfant doit être scolarisé. Donc, on les envoie dans les écoles publiques. On n'a pas les effectifs requis. Les classes sont surabondées. Il n'y a pas assez de ressources par moment pour qu'ils sont préparés à accueillir cet influx d'immigrants. Donc, on voudrait bien ouvrir les portes des États-Unis à tout le monde, mais à la fin de la journée, chaque État a un budget bien précis et on va prendre les décisions par rapport à ce budget-là. Oui, c'est une crise humanitaire, mais à la fin de la journée, comme on dit, le contribuable américain, celui qui paye les impôts, l'argent de cet impôt, je pense que la plupart des gens préféreraient que cet argent soit mis dans d'autres programmes que de celui de supporter...
Tout à fait, Carole Grasse-Mbarga. C'est l'administration Biden qui est aux affaires, qui est chargée de mener la politique migratoire. Alors, justement, ils sont accusés par les Républicains d'avoir créé cette situation ou d'avoir aggravé cette situation. Est-ce que c'est votre avis?
Moi, je ne le crois pas, parce que même avec le président Donald Trump ou bien l'ancien président Bush, on avait déjà cette crise. Tant que les États-Unis demeurent comme l'Eldorado du monde entier, nous aurons toujours ce problème dans nos frontières, quelle que soit l'administration qui est là. Moi, je pense que c'est un tout petit peu de la forfaiture intellectuelle que de vouloir dire que non, les démocrates ont empiré le problème, parce que nous savons que les immigrants, par exemple, qui viennent de l'Amérique latine, ça, c'est leur gouvernement déjà, le Venezuela, le Guatemala, le Mexique, qui ont des problèmes déjà à contrôler la puissance des cartels, vous voyez. Donc, je pense que c'est aussi un problème de géopolitique.
Voilà. Alors, Bakary Tandja, un projet de réforme a pourtant été déposé au Congrès, hein, prévoyant plus de policiers aux frontières, des procédures d'asile plus strictes et qui donne le pouvoir au président de fermer purement et simplement cette frontière en cas d'arrivée de migrants supérieurs à un certain seuil. Vous qui êtes défenseur des droits des immigrants, que pensez-vous de ce projet de réforme?
Vraiment, d'une manière générale, les défenseurs des droits de l'homme, des droits des immigrants, vraiment ne sont pas du tout contents de cette proposition de loi qui est beaucoup plus orientée vers la répression, vers la déportation. La réalité est que c'est un problème qui est complexe. Au lieu de le politiser, les politiciens américains doivent se joindre les mains pour trouver une solution juste et durable. Personnellement, depuis 2020 au moins, je suis activement engagé dans la campagne pour une réforme compréhensive de l'immigration. Il y a eu des moments où on était très proche du finishing line. Une chambre adopte, l'autre chambre rejette, une sorte de ping-pong entre les deux chambres. Donc le problème doit être confronté d'une manière directe et arrêté de politiser. La réalité est que les personnes sont là, ils ont droit à un traitement juste, à un traitement humain. Et les gens doivent se focaliser sur ça. Bon, cette nouvelle proposition, par exemple, n'intègre même pas la question des Dreamers, qui est d'ailleurs qui a eu à bénéficier d'une approche bipartisane. Si nous considérons la question des Dreamers, ils sont de facto des Américains. Ils sont presque nés ici. Ils sont éduqués. Certains sont même des avocats, des médecins qui contribuent au développement économique et social du pays. Donc, il y a une certaine, il y a un certain manque de volonté et il y a un ping-pong. Les uns ou les autres essaient de politiser et ce n'est pas ça la solution. Donc, il faut confronter le problème, le régler d'une manière juste, équitable, et humaine.
Voilà, on va vous donner la parole à la fin de l'émission pour quelques propositions. Mais déjà, retrouvons René Lek. René Lek, alors le projet de réforme a été rejeté et le président Joe Biden attribue cette responsabilité à son prédécesseur Donald Trump. Donald Trump a dit, Joe Biden préfère instrumentaliser cette question plutôt que de la résoudre. Que représente selon vous la question migratoire pour l'ancien président?
L'ancien président, la question migratoire, elle est centrale dans son discours politique. Vous vous souvenez quand il défendait l'escalateur dans son immeuble à la 5e avenue à New York pour annoncer sa candidature à l'élection de 2016. Sa première déclaration, c'était pour s'en prendre à un juge mexicain. C'était pour parler du mur qu'il faudra construire à la frontière et que le Mexique paierait pour sa construction. Donc, le discours anti-immigrant, le discours xénophobe, raciste, certains diront, de Donald Trump est au centre de son discours politique. Et au fond, quelque part, il a créé un environnement où il est difficile pour le reste du Parti républicain de ne pas quelque part enfourcher un peu ce cheval. Et c'est très intéressant, vous parlez de cette loi qui est une loi consensuelle, qui a été écrite à la fois par les intérêts consensuels, elle était bipartisane entre républicains et démocrates. Mais il a fallu que justement Donald Trump fasse des déclarations contre cette loi en disant clairement, explicitement, quelque part, que si cette loi était votée, elle serait mise à l'actif de Biden et pour sa campagne présidentielle, ça lui ôterait un élément de, un levier politique dans son discours. Donc on est vraiment dans un jeu de politique politicienne sans nom.
Alors, Carole Grasse-Mbarga a écouté l'analyse de René Lay, qu'on a l'impression qu'il y a quand même un consensus pour un projet de réforme migratoire aux États-Unis, mais que pour des raisons politiciennes, certains acteurs préfèrent ne pas que cette loi passe. Selon vous, est-ce qu'il y a vraiment consensus? Sinon, qu'est-ce qui pourrait diviser démocrates et républicains par rapport à cette question? Et vous qui êtes démocrate, vous l'avez dit, que proposent les démocrates de concret pour résoudre cette crise-là?
Tout ce que je sais, c'est que nous n'avons pas encore, le Parti républicain n'a pas encore, en anglais on dit iron out, on n'a pas encore les détails d'une réforme immigratoire. Mais ce que nous ne voudrions pas qui arrive aux États-Unis, c'est par exemple le cas de la Floride, avec le gouverneur de DeSantis qui a passé on appelle ça ici Immigration Bill, une loi immigratoire qui est vraiment très stricte. Et cela a beaucoup impacté l'économie de la Floride. Donc, imaginez donc si, par exemple, le président Donald Trump revient, et ou bien le président Joe Biden décide d'adopter des méthodes aussi drastiques que celles qui ont été implémentées en Floride, nous allons nous retrouver avec une autre crise humanitaire dans laquelle des immigrants qui ont fui les cartels de chez eux, certains qui viennent ici pour demander justement l'asile politique, nous avons les enfants qui sont nés sous le DACA, nous avons les Dreamers. Si nous implémentons des réformes immigratoires excessives, nous allons maintenant avoir une crise humanitaire.
Alors, Carole Grasse, ce sera le dernier tour de parole de chacun des invités. On va commencer par vous. Que faut-il faire? Comment résoudre cette crise? Est-ce qu'il faut construire un mur comme l'a proposé Donald Trump?
Non. Moi, je suis contre le mur tout simplement parce que, historiquement, les États-Unis ont toujours été une terre d'immigrants. Depuis que le Mayflower est arrivé sur les berges, ici, je ne me rappelle pas qu'on avait demandé à quelqu'un de signer un quelconque document ou je ne sais trop quoi. Ce que moi je propose, c'est des réformes immigratoires qui vont prendre en considération l'aspect humanitaire. Ça veut dire on accorde l'asile à ceux qui demandent l'asile. On offre des opportunités d'emploi à ceux qui demandent de l'emploi. Ceux qui sont qualifiés pour aller à l'école, on leur donne accès à l'éducation parce que c'est aussi ça, l'American Dream. Ça, c'est mon point de vue personnel.
Voilà.
Maintenant, au niveau des budgets, l'État n'a qu'à refaire, revoir l'économie.
Voilà.
Nous avons de l'argent que nous envoyons, je vais chuter avec ça.
Oui.
Si nous pouvons avoir de l'argent que nous envoyons dans les pays étrangers, par exemple, pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine, je suis sûr qu'on peut aussi trouver de l'argent dans notre budget pour aider à trouver des réformes immigratoires qui sont, non seulement ajustées, mais qui mettent en avant les droits de l'homme.
Voilà, merci beaucoup. Bakary Tandja, en quelques 45 secondes, vos propositions, les grands points.
Je rejoins la position de ma sœur
Carole Grasse-Mbarga, oui.
Carole, en fait, il faut absolument une réforme compréhensive qui est juste et humanitaire. Et c'est ce que les advocates, les défenseurs des droits de l'homme demandent. Et en attendant, il y a un certain nombre de choses qui sont urgentes. Par exemple, les villes comme Chicago, New York, Denver, qui ont reçu en tout cas un nombre excessif de migrants, que le gouvernement fédéral les assiste. Également sur le plan légal, ce que nous observons sur le terrain, actuellement, ces migrants qui viennent, qui sont totalement démunis, ils doivent soumettre leur application pour l'asile en l'espace d'un an. Et les avocats demandent des montants faramineux, jusqu'à 6 000 $, 7 000 $, jusqu'à 10 000 $. C'est incroyable.
Faciliter donc la procédure.
Et ensuite, le problème aussi est que le nombre des juges de l'immigration doivent être augmenté. Actuellement, il y a environ 650 juges de l'immigration et le nombre de dossiers qui leur sont soumis.
Voilà, merci beaucoup Bakary Tandja. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission L'Amérique et vous, Mohamed Oumpa, la présentation. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission. et en ligne sur notre site web voaafrique.com. Merci d'avoir écouté. À très bientôt.